dans cette rue tranquille.
Histoire de cinéma, Jean-Philippe Gunet.
Un mystère se révèle.
Coulisses, anecdotes, secrets de tournage.
Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel. Houston, je n'ai plus le Dr Stone en visuel.
Redécouvrez les plus grands films autrement.
Et une aventure commence.
La semaine dernière, je vous avais raconté la genèse de Naissance d'une Nation, le film muet de 1915. Écrit et réalisé par D.W. Griffith, il raconte les aventures de deux familles, une nordiste abolitionniste, l'autre sudiste esclavagiste, avant, pendant et après la guerre de sécession. Il est surtout largement adapté de The Klansman, un roman devenu pièce de théâtre de Thomas Dixon qui glorifie le Ku Klux Klan. Une œuvre ouvertement raciste qui a provoqué des remous, mais qui a aussi été un gros succès public dans le Sud. Le tournage de Naissance d'une Nation démarre le 4 juillet 1914 et dure jusqu'à fin septembre. Il se déroule dans divers sites de la Californie. Le film dure 3h15, ce qui est exceptionnel pour l'époque. Il est projeté en deux parties avec un intermède au milieu. Et ça aussi, c'est du jamais vu. Au fait, je ne vous ai rien dit à propos de ces acteurs. Celle qui est rentrée dans la postérité, c'est Lillian Gish, grande star du cinéma muet, revue bien plus tard, en 1955, dans le chef-d'œuvre La Nuit du Chasseur. On note aussi dans des petits rôles la présence de deux futurs réalisateurs très connus, Raoul Walsh, qui incarne John Wilkes Booth, l'assassin du président Abraham Lincoln, et John Ford, futur géant d'Hollywood et héros de la Seconde Guerre mondiale. Le film est bourré de nouveautés techniques. Les plans panoramiques, les plans séquences, les fondus au noir qui se terminent en iris et les scènes de nuit. En 1915, tout ceci est révolutionnaire. Pour les scènes de bataille, D.W. Griffith utilise des centaines de figurants filmés de telle manière qu'ils ont l'air d'être des milliers. L'académie militaire de West Point lui fournit des canons de la guerre de sécession. Elle donne aussi des conseils pour la reconstitution d'époque. Le film est en noir et blanc, mais Griffith teint sa pellicule avec différentes couleurs pour les besoins de la narration. Certaines scènes, par exemple, sont en sépia, alors que d'autres tirent plutôt vers le bleu. Mieux encore, le cinéaste se sert de la musique de Joseph Carl Braille pour renforcer l'intensité dramatique. En fait, toutes ces idées sont rien de moins que des bases du langage cinématographique. Griffith fait basculer le cinéma dans l'ère de la mise en scène. L'idée est de ne plus se contenter de poser la caméra pour capter ce qui se passe sous ses yeux. Désormais, un réalisateur peut jouer sur tous les éléments d'un film, images, sons, montage, etc. C'est pour cette raison qu'on peut dire que Naissance d'une Nation a défini la norme de toutes les superproductions à venir, ainsi que celle des films de guerre, et ses principes de mise en scène sont toujours valables aujourd'hui. Le film est projeté pour la première fois en public le 1er janvier 1915 à Riverside en Californie. Le 8 février, une nouvelle séance a lieu avec 3000 personnes à Los Angeles. Le 18 février, il devient le premier film à être montré à la Maison Blanche en présence du président Woodrow Wilson, lequel Wilson se fera ensuite critiquer pour avoir ainsi apporté son soutien au film, même si le point de vue réel du président américain est un objet de débat entre historiens et pas clairement tranché. Le 2 mars a lieu la première du film à New York. Au départ, il s'appelait The Klansman, comme le roman de Thomas Dixon et la pièce. Juste avant la première new-yorkaise, il est rebaptisé Naissance d'une Nation. Thank you. Le film a coûté 110 000 dollars, une grosse somme pour l'époque. Ses financeurs comprennent qu'il a besoin d'une campagne de publicité. Le film sort donc d'abord dans un nombre limité de salles dans des grandes villes avant d'avoir une diffusion généralisée. Cette façon de procéder est devenue courante depuis. Naissance d'une nation était aussi un film précurseur dans le domaine du marketing. Il aura une sortie internationale. En France, ce sera en 1920. À cette époque, les recettes des films ne sont pas comptabilisées avec précision. Du coup, impossible de savoir exactement combien d'argent a gagné Naissance d'une nation. Il a probablement dépassé les 20 millions de dollars, une somme énorme pour l'époque. Ce qui est sûr, c'est qu'il est resté le plus gros succès au box-office jusqu'à la sortie d'Autant en emporte le vent en 1939. Dès sa sortie, il n'échappe pas à la controverse comme la pièce The Klansman avant lui. La NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, cherche à le faire interdire sans trop de succès. Le film provoque aussi des émeutes. Parlons-en justement. Évidemment que Naissance d'une nation est raciste, ça se voit surtout dans la deuxième partie, celle qui parle de la reconstruction. Le récit montre un Sud sans défense, livré aux Noirs, il montre les Noirs comme des gens violents, illettrés, juste bons à mettre leurs pieds nus sur les dossiers des fauteuils dans l'enceinte des législatures des États. Le Ku Klux Klan est glorifié, présenté comme le moyen de sauver les habitants du Sud, et surtout les femmes, contre la menace des Noirs. Un siècle plus tard, de tels points de vue sont évidemment inacceptables. Il y a 100 ans, ils provoquaient déjà des émeutes. Mais le film, comme le roman et la pièce avant lui, sont nés dans une Amérique qui pratiquait la ségrégation. Et souvenons-nous que la ségrégation n'a finalement été abolie dans le Sud qu'un demi-siècle plus tard, dans les années 60. En fait, s'il provoquait des scandales, Naissance d'une nation correspondait aussi à la mentalité de son époque. Et d'ailleurs, D.W. Griffith a mal vécu les polémiques suscitées par son film, au point d'en tourner Intolérance l'année suivante, en 1916. Le film, en tout cas, a clairement contribué à faire revivre le Ku Klux Klan qui s'était étiolé. Et un siècle après, il est le parfait étendard des suprémacistes blancs en plein renouveau sous la présidence de Donald Trump. Cinéaste phare de l'identité noire, Spike Lee ne s'y est d'ailleurs pas trompé en 2018 dans son Black Klansman, où il ne manque pas de souligner le rôle d'étendard que joue Naissance d'une nation pour le Ku Klux Klan moderne. Naissance d'une nation est donc une œuvre essentielle, un tournant dans l'histoire du cinéma, mais aussi le reflet d'une des pages noires de l'histoire de l'Amérique.
C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet, à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.